VOA Afrique, les infos. À Washington.
Chérubin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Voici un résumé des principales nouvelles du monde. Attentat à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. Un attentat suicide a secoué une gare routière cet après-midi à proximité du marché aux poissons de la rue de Baga. On compte au moins 20 morts. D'après un milicien combattant, les islamistes de Boko Haram aux côtés de l'armée, cité par l'AFP, l'explosion a été entendue au moment où se préparaient les prières de l'après-midi. La France va accroître son soutien militaire à la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. D'après le ministre français de la Défense, Paris entend ainsi soutenir l'application de l'accord de paix signé ce week-end par la rébellion à dominante Touareg. Des moyens de liaison supplémentaires vont être établis entre l'état-major de la MINUSMA et l'opération française Barkhane, qui opère sur 5 pays de la zone sahélo-saharienne, a précisé Jean-Yves Le Drian en visite au Mali. D'après l'agence France-Presse, l'AFP, plutôt la France, va demander à ses partenaires européens de fournir des officiers, le besoin étant estimé à 70. À une semaine d'élections législatives et communales controversées au Burundi, au moins 4 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées de la nuit d'hier à aujourd'hui dans une nouvelle série d'attaques à la grenade dans le nord du pays et à Bujumbura. Précision avec Jacques Aristide.
Dans la capitale, 2 policiers ont été blessés par une grenade ce lundi matin lors d'une patrouille dans le quartier contestataire de Muzaga, rapporte l'AFP. 3 autres attaques ont été perpétrées dans les provinces du Kirundo, Muyinga et Ngozi, qui est la région natale et fief du chef de l'État. D'après des sources policières et administratives, ce sont notamment des bars qui ont été visés. Les réactions n'ont pas tardé. La présidence burundaise a immédiatement imputé ces nouvelles violences à une partie de l'opposition et de la société civile. L'opposition, elle, a nié toute responsabilité, accusant le pouvoir de chercher à instrumentaliser ces attaques pour se débarrasser de ses contradicteurs. 11 policiers avaient déjà été blessés dans la nuit de vendredi à samedi, dans plusieurs attaques à la grenade dans la capitale. Bujumbura est depuis fin avril l'épicentre du mouvement anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il est candidat à la présidentielle prévue le 15 juillet, 2 semaines après les législatives et communales programmées le 29 juin.
En République démocratique du Congo, un calme précaire règne à Kotakoli, un camp militaire situé dans le nord de la province de l'Équateur, après une mutinerie de plus de 800 ex-rebelles et miliciens. Eddie Isango.
Le week-end aura été marqué par des pillages dans ces centres d'instruction commando transformés en un camp de démobilisation dans la province de l'Équateur. Dépôts de munitions et bureaux du coordonnateur ont été les plus visés. Les ex-membres des groupes armés qui y sont concentrés avaient refusé toute négociation avec le gouvernement avant de se calmer. Mais ils ont donné 3 jours aux autorités pour qu'une solution soit trouvée. Ils exigent d'être intégrés dans l'armée ou alors d'être renvoyés chez eux car ils vivent dans ces camps depuis 2 ans et estiment être abandonnés. Pour leur part, les autorités estiment que les ex-combattants enfoncent une porte déjà ouverte. Les porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a annoncé sur Radio Okapi, radio soutenue par l'ONU, que la délocalisation de ces camps avait déjà été décidée et se fera incessamment. En octobre dernier, Human Rights Watch avait dénoncé la mort par la faim et par la malaria d'une centaine de personnes dans ces camps.
Le président du Soudan, Omar Hassan al-Bashir, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, n'a pas été inquiété à l'issue du sommet de l'Union africaine. Pretoria aurait tout organisé à l'avance. C'est l'information relayée par plusieurs organes de presse, mais démentie par l'Afrique du Sud. Salwa Jafari.
Ce qui est fait est fait. Omar al-Bashir a été accueilli en héros à son arrivée à Khartoum. Malgré une décision de justice qui lui interdisait de quitter le territoire, le président soudanais est parvenu à quitter sans entrave l'Afrique du Sud, où il participait à un sommet. Que s'est-il passé exactement? Les médias en ont fait leur chou gras ces derniers jours. Certains ont accusé le gouvernement de Pretoria d'avoir planifié le départ du chef d'État bien avant le démarrage du sommet. Accusation rejetée en bloc par le gouvernement sud-africain. L'Afrique du Sud étant l'un des membres fondateurs de la CPI, elle était en théorie tenue d'empêcher la venue du président soudanais sur son territoire ou de l'arrêter s'il venait à s'y trouver. Selon le Sunday Times, qui cite sans les nommer plusieurs sources haut placées, un plan avait été préparé d'avance par 5 ministres d'Ouzouma pour que Béchir ne soit pas inquiété. L'hebdomadaire ajoute que le président soudanais a été exfiltré par des policiers chargés de la protection rapprochée du président sud-africain. Le gouvernement dément catégoriquement ces allégations. Il doit fournir d'ici jeudi au tribunal un rapport expliquant comment le président al-Bashir a quitté le pays. L'affaire doit également être abordée mardi au Parlement sud-africain.
Résultat des élections en Éthiopie, aucune surprise. La coalition au pouvoir a remporté une victoire écrasante. Michel Joseph.
Le PRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, remporte une victoire sans appel. Cette coalition de quatre grands partis qui dirigent l'Éthiopie depuis 1991 remporte 500 circonscriptions, 46 autres sièges se répartissant entre des petites formations régionales qui lui sont alliées. Ces élections sont les premières depuis la mort en 2012 du premier ministre Meles Zenawi, qui avait incarné le pouvoir en Éthiopie depuis le renversement de Mengistu Haïle Mariam, chef de la junte qui dirigea l'Éthiopie durant la Terreur rouge entre 1974 et 1991. L'un des principaux partis de l'opposition éthiopienne, le parti Sema Yawi, avait dénoncé fin mai un déni de démocratie après l'annonce de résultats provisoires montrant que le PRDF s'acheminait vers une victoire écrasante. Symbole de la famine dans les années 1980, le pays affiche désormais une croissance économique de 10% selon la Banque mondiale. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un groupe de kamikazes talibans lourdement armés ont pris d'assaut aujourd'hui le Parlement afghan à Kaboul, alors que la Chambre était en session pour se prononcer sur le choix de Massoum Stanekzai pour le poste de ministre de la Défense. Des témoins ont signalé une série d'explosions et des échanges de tirs dans le bâtiment après le raid. Nicolas Pino.
Selon le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, Sedik Sediki, l'attaque a été perpétrée par 7 talibans armés bardés d'explosifs et ils ont été tous tués par les forces de sécurité après un siège de près de 2 heures. Il a ajouté qu'aucun des parlementaires n'avait été blessé, mais selon d'autres sources officielles, au moins 30 personnes ont été blessées dans cette attaque. Selon l'agence France-Presse, qui cite la mission de l'ONU dans le pays, 2 personnes, une femme et un enfant, ont été tuées dans l'explosion. L'ambassade américaine à Kaboul a publié un communiqué dénonçant énergiquement cette attaque, disant qu'elle montre un manque flagrant de respect pour la démocratie et l'état de droit. Pour sa part, un porte-parole taliban, Zabinullah Mujahid, a dit que son mouvement était responsable, je cite, de cette mission suicide visant les membres du Parlement esclave. Fin de citation. Tout comme l'ambassade américaine, le Pakistan a condamné l'attaque. Le terrorisme est l'ennemi commun de l'Afghanistan et du Pakistan, selon un communiqué du premier ministre pakistanais, Nawaz Sharif. Les efforts du président Ghani pour tenter de mener les talibans à la table des négociations à la faveur notamment d'un rapprochement diplomatique avec le Pakistan voisin n'ont pas porté leurs fruits pour le moment.
L'Union européenne a lancé officiellement ce lundi, lors d'une réunion de ses ministres des Affaires étrangères au Luxembourg, une mission navale de lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée. Selon l'AFP, cette initiative sera limitée dans un premier temps à une surveillance accrue des réseaux de passeurs. Durant la première phase qui va démarrer dans les jours à venir, les autorités vont recueillir les informations et organiser des patrouilles en haute mer pour aider à la détection des réseaux de passeurs, a expliqué la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. L'opération est baptisée EU-NAVFOR-MED. Elle impliquera 1 millier d'hommes. 14 pays de l'Union y contribuent, en matériel ou en hommes. Une question reste à régler cependant, l'autorisation d'utiliser la force dans les eaux territoriales de la Libye, ce qui requiert une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe via la Méditerranée depuis le début de l'année, indique le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une commission d'enquête de l'ONU a conclu à de possibles crimes de guerre commis tant par Israël que par les groupes armés palestiniens lors du conflit à Gaza à l'été 2014. Dans un rapport publié aujourd'hui et dont les conclusions ont été aussitôt rejetées par Israël, mais saluées par le Hamas palestinien. Les marchés ont affiché aujourd'hui de fortes progressions. Athènes s'envolant de 9%, Paris, Francfort et Madrid progressant de plus de 3,8% sur fond d'optimisme des investisseurs sur un accord dans la semaine entre la Grèce et ses créanciers. Cet enthousiasme boursier a coïncidé avec une journée marathon à Bruxelles, marquée par une réunion des ministres des Finances de la zone euro, une rencontre entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et les responsables des différentes institutions financières créancières du pays. Nouvelles du monde sur VOA Afrique. Chérubin Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite.